Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Escale au cœur du printemps arabe et lecture du plus récent rapport de Human Rights Watch sur les bouleversements dans la région du monde arabe. Maël Fayek au micro, bonjour à tous. De nombreuses démocraties cherchant à protéger leurs liens avec des alliés répressifs n'ont apporté qu'un soutien modéré aux droits humains lors des manifestations du printemps arabe, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport lancé le 23 janvier 2012 au siège des Nations Unies à New York. Tant par principe que dans leur propre intérêt à long terme, les gouvernements devraient soutenir avec fermeté les peuples du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord dans leur quête pour faire valoir leurs droits fondamentaux. Aujourd'hui, Philippe Bolopion, directeur de la branche Nations Unies à Human Rights Watch, est mon invité. Avec lui, nous allons évoquer les points saillants du rapport mondial 2012 de son organisation, un rapport qui documente les atteintes aux droits humains dans le monde entier, notamment les violations des lois de la guerre en Libye, en Syrie et en Côte d'Ivoire.
La Libye doit gérer des décennies de violations extrêmement graves des droits de l'homme et donc il va falloir que la lumière soit faite sur le comportement du régime de Muammar Kadhafi pendant toutes ces années. La lumière devra être faite sur les crimes qui ont été commis durant la période pendant laquelle il dirigeait le pays et les gens qui dans son entourage sont également responsables de violations très graves des droits de l'homme pendant cette période devront également répondre de leurs actes. Ceci dit, les forces opposées à Muammar Kadhafi lorsqu'elles ont repris le contrôle de la Libye ont également commis des actions graves. On a documenté plusieurs sites sur lesquels des dizaines de combattants pro-Kadhafi avaient été tués, liquidés, vraisemblablement exécutés sur place alors qu'ils étaient déjà prisonniers. Il y a eu beaucoup d'actes de vengeance ou de mesures de rétorsion contre des Libyens à la peau noire ou contre des immigrants africains parce qu'ils étaient à tort ou à raison perçus comme ayant soutenu le régime de Kadhafi et pour certains comme ayant été des mercenaires à sa solde, même si l'immense majorité d'entre eux étaient simplement des immigrants qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc le pays arrive vraiment à la croisée des chemins et on espère que la nouvelle Libye qui va émerger des cendres de l'ancienne Libye sera une Libye dans laquelle les droits élémentaires des personnes seront respectés. Alors, pour ce qui concerne l'OTAN, il y a eu certaines accusations qui ont été faites par certains pays, parfois avec des motivations politiques, disant que des centaines ou des milliers de civils avaient été tués par l'OTAN dans le cadre de ces opérations en Libye. C'est une question qu'on prend au sérieux, sur laquelle on s'est penché. Initialement, l'OTAN niait toute perte civile due à ces opérations. Nous, on a documenté 4 des incidents les plus graves dans lesquels on pense qu'environ 54 personnes ont été tuées, sans doute des civils. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été tuées forcément de manière illégale, mais on pense que l'OTAN devrait enquêter sur ces événements, être beaucoup plus transparent que n'a été l'organisation jusqu'à maintenant, pour retenir les leçons de ce qui n'a pas bien tourné dans ces cas précis et également peut-être pour que le débat autour de ces questions soit plus.
Beaucoup d'États membres de l'OTAN, notamment les États-Unis, ont reconnu ces pertes de civils, en fait, dues aux attaques de l'OTAN, et se sont même excusés. Donc ce n'est pas un secret de Polichinelle.
C'est plus récent. Initialement, il y a eu une attitude de déni, et plus récemment, l'OTAN a admis qu'il y avait sans doute eu des pertes, mais n'a pas enquêté sur ces pertes civiles. On pense que l'OTAN devrait être beaucoup plus proactif sur cette question et essayer d'enquêter sur place pour essayer de comprendre exactement quelles ont été les causes de ces pertes civiles. On parle de familles, de gens complètement innocents qui ont été frappés par des bombes, parfois dans leur sommeil ou dans leur maison. Donc c'est une question sérieuse. Ces gens-là ont le droit de savoir ce qui s'est passé. Ils ont droit à ce que la lumière soit faite, peut-être à des compensations. Et donc pour cette raison, on pense que s'excuser n'est pas suffisant, mais que l'OTAN devrait enquêter.
Il ne faut pas être non plus naïf. Il a même été question du fils à Kadhafi et quelques-uns de ses petits-enfants ont été tués dans des frappes de l'OTAN.
Oui, absolument. Et donc, c'est également une chose que l'OTAN doit expliquer. Et ça fait partie des dossiers sur lesquels on pense qu'il serait bon de faire la lumière.
Alors, j'ai pas envie vraiment de m'attarder sur Kadhafi et sa famille, mais il faut dire aussi que la façon dont Kadhafi a été liquidé, tué, battu, torturé, a choqué le monde entier. Certains de ses détracteurs n'étaient-ils pas à la base les camarades de Kadhafi ? il faut le reconnaître aussi en fait. Le Conseil national de transition n'est pas fait que de révolutionnaires.
Il y a effectivement des personnes, disons, de l'ancien régime, et effectivement, la manière dont Muammar Kadhafi a été tué était absolument abominable. Et on espère que les nouvelles autorités libyennes vont faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et traduire ceux qui sont responsables de cette exécution sommaire pour que la Libye reparte sur un bon pied.
Comment peut-on faire valoir le principe même de respect des droits de l'homme dans un pays qui, même s'il est aujourd'hui sous la coupe de nouvelles autorités, un pays qui n'a jamais entendu parler des droits de l'homme depuis des décennies.
C'est pour ça que la Libye a besoin de tout le soutien de la communauté internationale et de l'ONU, notamment pour développer ses institutions judiciaires, sa police. Effectivement, on ne tourne pas la page du jour au lendemain. C'est un processus qui va peut-être durer pendant plusieurs générations, mais les Libyens ne pourront pas faire ça seuls. Ils auront besoin du soutien de la communauté internationale, ils auront besoin de l'expertise de l'ONU sur toutes ces questions, parce que tant que la Libye ne sera pas capable et en mesure de juger les gens qui commettent des violations graves des droits de l'homme, bien l'impunité continuera et le genre de crimes qu'on a vu perpétrés en Libye continueront.
Alors, Human Rights Watch et les Nations Unies sont sur la même longueur d'onde concernant le dossier de la Libye et concernant la façon dont la question des droits de l'homme, de façon générale, doit être gérée sur le terrain.
C'est difficile à dire. Tout dépend de ce qu'on entend par l'ONU. Est-ce qu'on parle du Conseil de sécurité, du secrétariat, des agences de l'ONU qui seront sur place?
Disons, Philippe, Conseil de sécurité, secrétariat d'un côté et au commissariat des droits de l'homme de l'autre, puisque de toute façon, sur ce dossier, on a vu, on a entendu des propos divergents émanant, que ce soit du secrétariat, du Conseil de sécurité ou du haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Je peux vous donner un exemple. La réaction du secrétaire général concernant l'assassinat de Muammar Kadhafi est venue tardivement et pas avec les mêmes mots, on va dire, lapidaires qu'a utilisé Navi Pillay.
Nous, on pense certainement que l'ONU doit être très claire quand elle dénonce ce genre de violation grave des droits de l'homme. Je dirais que les pays qui ont soutenu les rebelles libyens pendant qu'ils combattaient les forces de Kadhafi ou les institutions qui les ont soutenus ont une responsabilité particulière aujourd'hui d'être extrêmement clairs sur ce qu'ils attendent des nouvelles autorités libyennes sur les questions des droits de l'homme. Il faut savoir tourner la page et il faut savoir parler de manière extrêmement claire. Il y a parfois, de notre point de vue, une tendance à ne pas être aussi bruyant pour dénoncer les violations des droits de l'homme d'anciens alliés. Par exemple, on trouve en Côte d'Ivoire aujourd'hui que l'ONU devrait pousser un peu plus le président Ouattara à rendre une justice équitable et à aussi mener des enquêtes sur les crimes qui ont été commis par les forces qui lui étaient loyales. Et pour l'instant, on n'a pas vu ça. On a vu des dizaines de responsables du régime de Laurent Gbagbo être inculpés par des autorités civiles et militaires, mais absolument personne dans les forces pro-Ouattara qui ont pourtant, de notre point de vue et d'après nos recherches dans le pays, ont commis des violations très graves des droits de l'homme, des massacres et parfois même, on pense, des crimes contre l'humanité.
Donc, vous évoquez le thème de la justice des vainqueurs et vous estimez que certains États membres du Conseil de sécurité ne sont pas assez parlants ou assez vocaux quand il s'agit de critiquer cette, je dirais, entre guillemets, justice des vainqueurs, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Libye, c'est cela?
C'est exactement ça. On pense que, par exemple, la France et les États-Unis devraient faire davantage pression sur le gouvernement du président Ouattara pour qu'il juge aussi et qu'il enquête aussi sur les crimes commis par les forces qui combattaient en son nom. Il a invité la CPI à enquêter dans le pays, c'est extrêmement bien. La CPI devra à un moment ou à un autre se pencher sur les crimes du camp Ouattara, mais ça ne veut pas dire que les autorités judiciaires ivoiriennes peuvent attendre en se croisant les bras en attendant. Nous avons fait des rapports, d'autres ONG ont fait des rapports documentant des massacres dans l'ouest du pays, et donc les autorités judiciaires ivoiriennes doivent enquêter sur ces massacres et doivent punir les responsables, peu importe leur rang et peu importe le camp pour lequel ils combattaient.
Pourquoi Ouattara lui-même est exclu de toute poursuite, à votre avis?
On pense que le président Ouattara ne devrait pas être exclu a priori de toute enquête. Ce sera aux autorités judiciaires de déterminer, ou peut-être à la CPI, de déterminer qui contrôlait les troupes qui ont commis des massacres en son nom, dans l'ouest du pays notamment. Ils devront remonter la chaîne de commandement aussi loin que possible, où que ça les mène.
Et cette position-là, vous la faites savoir haut et fort devant la CPI en fait?
La CPI a reçu nos rapports et est parfaitement au courant de notre vision des choses. Et le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, a dit clairement qu'il enquêterait sur les crimes qui ont été commis, quel que soit le camp qui en était responsable. Pour l'instant, Il semble s'être concentré davantage sur les crimes commis par le camp Gbagbo, mais ça ne veut évidemment pas dire que ça s'arrêtera là.
Et juste très rapidement, pour en revenir au cas de la Libye, ce que vous, Human Rights Watch, voulez appliquer au camp Ouattara, vous l'appliquez également à toute personne faisant partie du Conseil national de transition qui serait impliquée dans des violations des droits de l'homme ?
Absolument. On a documenté pendant le conflit, à la fin du conflit, des violations des droits de l'homme extrêmement graves commises vraisemblablement par des rebelles libyens. Et donc, si le nouveau régime libyen veut prouver qu'il est différent du régime de Kadhafi, qu'il veut prouver qu'il a tourné la page, et s'il veut prouver qu'il veut construire un nouveau pays bâti sur le respect des droits de l'homme, eh bien, il se doit de juger aussi les gens qui, dans son camp, ont commis des crimes.
Alors, on va tourner la page et on va passer au chapitre de la Syrie. La Syrie, vous êtes très déçu par la position de certains États membres du Conseil de sécurité, notamment la Russie, la Chine, l'Inde et le Brésil également, concernant les mesures à prendre, notamment des sanctions qui devraient être prises, selon vous, par le Conseil de sécurité contre le transfert des armes, la vente d'armes et autres, et les déplacements de certaines personnes impliquées dans les violations aux droits de l'homme. En Syrie, vous êtes très déçu. C'est cela.
On pense que le Conseil de sécurité doit maintenant agir. Son silence est absolument inexcusable. Ça va faire bientôt un an que la violence continue en Syrie. Selon l'ONU, il y a plus de 5000 personnes qui ont été tuées et le Conseil n'a quasiment rien fait sur ce dossier. C'est vraiment une tache sur son bilan. C'est principalement dû à la Russie et à la Chine qui ont utilisé leur droit de veto pour bloquer toute action du Conseil de sécurité. Mais ils ont aussi pu faire ça à cause de la complicité de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, trois puissances émergentes dont la voix compte au Conseil de sécurité et qui ont choisi de rester passifs sur ce dossier en invoquant le précédent libyen ou la peur d'une nouvelle intervention militaire. Mais d'après nous, ce sont de mauvaises excuses. Le Conseil de sécurité doit se faire entendre. Il doit faire monter la pression sur le régime syrien en adoptant, vous l'avez dit, un embargo sur les armes, en sanctionnant les responsables syriens qui sont responsables de la violence et aussi en renvoyant le dossier devant la Cour pénale internationale pour que le président Assad et les gens de son entourage sachent que s'ils commettent des crimes graves, eh bien, ils risqueront un jour de se retrouver à la haie comme Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la haie.
Alors, sanctions contre le régime syrien, embargo sur les armes, c'est ce que vous souhaitez ou vous souhaitez encore plus? Ça veut dire une intervention militaire en Syrie?
Non, on n'a pas appelé à une intervention militaire et il y a bien des choses que le Conseil de sécurité puisse faire qui n'ont rien à voir avec l'action militaire. Le Conseil de sécurité peut commencer à parler d'une seule voix là-dessus, mettre le régime en garde. Ça fait des mois et des mois qu'il défie la communauté internationale, il défie les décisions du Conseil des droits de l'homme et ils l'ont fait jusqu'à maintenant sans conséquences graves pour le régime. Et on pense que le Conseil de sécurité peut changer ce calcul en visant de manière très précise les responsables syriens qui sont impliqués dans la violence. On n'est pas pour des sanctions qui pourraient se retourner contre le peuple syrien et rendre leur vie encore plus difficile. Mais on pense que, par exemple, en interdisant de voyager ou en gelant les comptes à l'étranger de hauts responsables syriens qui sont impliqués dans la violence, eh bien, le Conseil de sécurité peut peut-être obtenir leur attention. On pense que les armes qui, en ce moment, sont livrées notamment par la Russie au régime syrien et utilisées pour tuer des manifestants pacifiques, eh bien, ces armes ne font qu'alimenter le conflit. Et donc, on pense que le Conseil de sécurité devrait décréter un embargo sur les armes.
Et vous, vous croyez pas du tout ou vous ne prenez pas du tout au sérieux la thèse du complot?
Les explications données par les autorités syriennes pointent toujours du doigt l'étranger, les États-Unis, Israël. Beaucoup de ces accusations sont tout simplement fantaisistes. Nous, ce qu'on dit sur la Syrie, c'est basé sur notre recherche. On a envoyé des gens dans le pays, à la frontière. On a parlé à des dizaines et des dizaines de victimes. Et on a documenté ce qu'on pense être des crimes contre l'humanité. Et donc, le régime syrien peut donner toutes les excuses qu'il veut. Il n'a aucune justification pour tirer sur des manifestants pacifiques, pour tuer des femmes, tuer des enfants qui ne font qu'exprimer leur opinion.
La quête de la démocratie et des droits humains au Moyen-Orient et en Afrique, Philippe Bolopion, directeur de la branche des Nations Unies à Human Rights Watch, était l'invité d'Escal cette semaine. Merci à Florence Westgaard et à Carlos Messias qui étaient aujourd'hui aux manettes. Merci à tous et à toutes de votre fidélité. Bonne semaine à tous et à très bientôt pour une nouvelle escale.